Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Requigny et Samuel Bernard, mais aussi Juliette Gadeau, Clément Salazar, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean-Frédéric. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est Harold Thibault qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Monde, l'ancien correspondant à Shanghai pour Le Monde et L'Express. Et vous étiez justement d'ailleurs en Corée du Sud il y a quelques temps, ce qui va beaucoup nous aider puisque vous avez eu l'occasion d'observer justement les manifestations dont on va parler aujourd'hui. Alors que la présidente sud-coréenne est engluée dans un retentissant scandale de corruption, son parti lui a demandé hier de quitter la présidence d'ici avril dans la perspective d'une élection anticipée. Si elle peut refuser cette proposition qui éviterait une procédure de destitution, elle semble peut-être s'y résigner. D'ailleurs, elle a affirmé cette semaine qu'elle était disposée à quitter le pouvoir avant la fin de son mandat. Son impopularité est telle que cette hypothèse semble désormais la plus probable. En effet, d'importantes manifestations se sont enchaînées ces dernières semaines. Rien que le week-end dernier, ce sont 450 000 personnes, selon les organisateurs, qui défilaient à Séoul pour demander sa démission. L'opposition pourrait-elle profiter de cette gronde populaire pour forcer l'alternative? Et d'ailleurs, que reproche-t-on exactement à Park Geun-hye, dont l'élection en décembre 2012 avait suscité de grands espoirs? Qu'est-ce que ce scandale révèle aussi de la santé de cette jeune démocratie sud-coréenne qui s'était extirpée de la dictature militaire dans les années 80? Pour évoquer ces sujets, deux invités avec nous en plateau. Juliette Morillo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe d'Asialiste, une spécialiste de la péninsule coréenne. D'ailleurs, vous aviez écrit un ouvrage très récemment sur la Corée du Nord en 100 questions avec Dorian... Rappelez-moi son
patron. Malovic.
Merci, Malovic de la Croix. Et Valérie Jolaiseau, merci d'être avec nous également.
Bonjour.
Vous êtes, vous, géographe, maître de conférence à la HESS, auteur également d'un certain nombre d'ouvrages, notamment Déboarding Coréa. Mais avant d'évoquer cette Corée du Sud avec vous, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de RDC, de Kinshasa. C'est Sabine Sessou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, ancienne correspondante de Libération en Afrique du Sud. On vous reçoit pour un article paru dans le Monde diplomatique du mois de décembre. Vous avez passé plusieurs jours donc à Kinshasa, c'est un pays que vous connaissez bien, dans lequel vous êtes rendu à maintes reprises. Je crois que vous étiez d'ailleurs, vous aviez suivi la chute de Mobutu au milieu des années 90, qui avait laissé la place à Laurent-Désiré Kabila, le père de l'actuel président. Depuis des mois, on voit que le pays est secoué par des crises à répétition. Le 19 septembre dernier, une grande manifestation réprimée par la police qui a fait au moins 32 morts. Les tensions sont récurrentes depuis sa réélection en 2011, la réélection de Joseph Kabila, et ça risque pas de s'arranger puisque des élections étaient prévues cette année, mais finalement elles ont été repoussées. On rappelle quand même qu'il est au pouvoir depuis 2011 maintenant.
Depuis, non, 2001.
2001, pardon. 2001, évidemment. 2011, c'est sa réélection. On vient d'apprendre par le ministre des Affaires étrangères congolais, Raymond Tshibanda, en marge du sommet de la francophonie, que l'élection présidentielle ne pourra pas se tenir avant avril 2018. C'est une rumeur qui avait déjà depuis quelques semaines. Officiellement, le mandat de Kabila s'achève le 20 décembre. Est-ce qu'on va tout droit, selon vous, Sabine Sessou, vers une nouvelle secousse sismique dans une crise qui dure maintenant depuis sa réélection en 2011? Il y a toutes les raisons de penser que ce 19 et 20 décembre prochain risque d'être très problématique. Vous attendez à une effusion de sang?
On peut se dire qu'il y a une insurrection qui vient, comme c'était le cas au Burkina Faso avant octobre 2014. Il faut se souvenir que le signal donné par le Burkina Faso a été entendu par toute l'Afrique, au niveau du peuple comme au niveau des dirigeants. Donc depuis qu'on sait que c'est possible de chasser son président par la rue, les chefs d'État ont peur, Kabila a peur. Mais il est dans une configuration et aussi dans une région où les présidents ont tendance à l'être à vie. Et comme Joseph Kabila n'a que 45 ans, même s'il a déjà 15 ans de pouvoir derrière lui, il est arrivé au pouvoir à 30 ans pour succéder à son père qui s'est fait assassiner en 2001 dans des circonstances encore non élucidées. On peut penser qu'il va tout faire pour se maintenir au pouvoir. En fait, on le soupçonne de vouloir tout faire pour se maintenir au pouvoir puisqu'il n'a pas organisé les élections à temps, puisqu'il ne se prononce pas sur son désir de partir, puisqu'il ne donne pas de signe de vouloir céder, passer le relais, et puisqu'il réprime à tour de bras toutes les manifestations qui se produisent. Or, il faut savoir que les manifestations l'ont déjà poussé à reculer. En janvier 2015, deux jours d'émeute, ont forcé le pouvoir à faire marche arrière sur un projet de modification d'une loi électorale qui lui aurait permis d'avoir un mandat cadeau quasiment, puisque le projet c'était de... Bon, puisqu'on peut pas réformer la Constitution, on touche pas à la Constitution, c'est trop sensible, tout le monde va s'énerver. D'accord, on va changer la loi électorale, on va faire un recensement, on va tout reprendre dans le fichier électoral, on fait un recensement général. Il y a 80 millions d'habitants en RDC, c'est un pays grand comme quatre fois la France où les routes sont impraticables. Et ça prendrait des années de faire un recensement général de la population. Donc là, les gens sont sortis. Il y a déjà eu une cinquantaine de morts en janvier 2015 et le pouvoir a fait marche arrière.
Sauf que là, il n'a pas l'air du tout décidé à faire marche arrière. D'ailleurs, je crois qu'il y a un diplomate qui vous confie qu'en fait, il a la conviction qu'il va mourir comme son père assassiné.
En fait, tout se joue dans une épreuve de force, un peu jusqu'au boutiste, des deux côtés. Donc, il y a eu un accord politique tout de même signé le 17 octobre, avec nomination d'un premier ministre issu des rangs de l'opposition le 17 novembre. Il s'agit de Sami Badibanga, qui est un dissident de l'UDPS, le parti d'opposition le plus populaire à Kinshasa, le parti d'Étienne Tshisekedi, qui est l'opposant historique à Mobutu, et qui a donc, dans cette position, une forte légitimité, une forte popularité à Kinshasa.
On va revenir évidemment sur la nomination de ce premier ministre, on va revenir effectivement sur cet opposant historique, mais d'abord, vous faisiez référence au scénario burkinabé. C'est vrai que lors des manifestations des derniers mois, on a régulièrement vu des pancartes « Kabila dégage ». Et évidemment, ça fait écho aux révolutions arabes, mais ça fait aussi écho à la révolution qui a eu, à la révolte qui a eu du côté du Burkina. Les Blaise dégage, Blaise Compaoré qui avait voulu se représenter en modifiant la constitution après 27 ans de pouvoir. On se souvient comment ça avait fini. Le peuple s'était élevé contre cette hypothèse, avait renversé le régime, on avait organisé une transition politique. Alors c'est vrai que ça n'avait pas été de tout repos. Il y avait eu notamment les militaires du régiment de sécurité présidentielle qui avaient essayé de faire capoter le processus, mais finalement, ça avait fonctionné. Et aujourd'hui, le Burkina a pu organiser des élections libres et démocratiques. Et aujourd'hui, le Burkina a un nouveau président. Est-ce que vous croyez en ce scénario du côté de la RDC? Parce qu'il y en a un autre qu'on pourrait évoquer. C'est celui du Burundi avec Pierre Nkurunziza qui, lui, en revanche, s'est représenté pour un nouveau mandat qu'il a finalement gagné en juillet 2015. Donc, lequel des scénarios voyez-vous là pour le cas de la RDC?
Comparaison n'est pas raison. L'Afrique de l'Ouest, le Burkina est en Afrique de l'Ouest, qui est une région qui s'est démocratisée, où il y a eu des soulèvements populaires avant. En 91, la rue au Mali a chassé un dictateur déjà. Il y a une histoire de manifestations et de liberté d'expression et d'organisation de la société civile, syndicale, les églises et autres au Burkina Faso qui n'existent pas forcément ailleurs. Il y a aussi l'héritage de Thomas Sankara qui est important. C'est-à-dire que les gens sont animés d'une vision. Ils savent que transformer le pays est possible puisqu'ils ont déjà eu une tentative révolutionnaire avec Thomas Sankara qui a abouti effectivement à des transformations profondes. Donc là, on est dans ce contexte particulier. Au Burundi, c'est encore complètement différent. C'est un pays qui est voisin de la RDC, mais il n'y a que 10 millions d'habitants par rapport à une vaste nation de 80 millions d'habitants à côté. Et l'histoire politique des deux pays n'est pas du tout la même. Le Burundi sort d'une longue guerre civile. Il a vécu à peu près 10 ans de paix. Et il retombe dans une guerre civile parce qu'un président veut s'accrocher au pouvoir et manipule l'ethnie à des fins politiques. Au Congo, il n'y a pas de manipulation possible de l'ethnie à des fins politiques, mais il y a à peu près la même configuration de... On sort d'une longue guerre civile. La guerre des deux Congos n'était même pas une guerre civile, c'était une guerre panafricaine où il y avait 9 nations impliquées. L'Afrique du Sud, comme au Burundi, arrache des accords de paix en 2002 dans les deux pays pour avoir la paix. Des constitutions nouvelles sont adoptées dans les deux pays en 2006. Et Pierre Nkurunziza, lui, a eu l'intelligence de ne même pas chercher à toucher la Constitution parce qu'il sait que cette Constitution est tellement récente et gorgée de sang que c'est impossible d'y toucher. C'est pareil au Congo. La Constitution est tellement récente et gorgée de sang que Kabila sait que dès qu'il touche à la Constitution, c'est le scénario burkinabé.
Alors justement, comparaison n'est pas raison, mais je vais encore faire une comparaison avec le Burkina. Ce qui avait été décisif dans le cas du Burkina, c'était le rôle de l'armée. On se souvient, les soldats finalement avaient fini par arrêter de s'opposer aux manifestants, ils les avaient laissés passer, ils étaient montés jusqu'à l'Assemblée nationale, qu'ils avaient complètement saccagé. Est-ce que l'hypothèse pour la RDC d'une armée qui laisserait tomber Kabila vous semble possible?
Non seulement elle est possible, mais le pouvoir anticipe déjà dessus, puisque le pouvoir est passé dans les camps militaires après les émeutes du 19 et 20 septembre pour retirer les armes aux soldats qui sont jugés pas fiables. Parce qu'il faut savoir que les soldats sont payés au lance-pierre et ils sont, comme tous les Congolais, victimes d'un régime qui s'en met plein les poches et qui ne redistribue absolument pas les richesses. Donc les soldats, comme tous les Congolais, n'ont qu'une seule chose en tête, c'est payer le Minerval, comme ils disent, pour les enfants. C'est 700 dollars par an et dans la plupart des familles, on ne peut pas mettre à l'école tous les enfants parce que c'est trop cher. Le revenu par habitant, c'est 485 dollars au Congo, moyen, le revenu moyen. Les salaires des fonctionnaires sont ridiculement bas par rapport au niveau de la vie. Et les élites sont ridiculement riches et étalent ridiculement, de manière presque obscène, leur richesse. Ce qui fait qu'il y a des frustrations énormes. Et je pense qu'il y a un réel risque. On a vu des policiers se solidariser avec les émeutiers en janvier 2015 et en septembre 2016. Il y a un réel risque et la seule force militaire qui est réellement loyale au régime, c'est 15 000 hommes de la garde républicaine.
Ouais, donc c'est plus en l'occurrence que le fameux régime, le corps présidentiel qu'il y avait au Burkina, en tout cas 15 000 hommes, c'est beaucoup plus.
Attention, on ne parle pas du tout de la même chose. Oui. Kinshasa, c'est 13 millions d'habitants. Ouais. 15 000 hommes dans une ville de 13 millions d'habitants, c'est rien.
Sabine Sessou, 17 novembre dernier, un nouveau Premier ministre issu de l'opposition est nommé, Sami Badibanga. C'est un homme qui, depuis des mois, milite justement pour des élections libres, pour le respect de la Constitution. Il milite sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan diplomatique. Il y a eu plusieurs appels à l'Union européenne, à la France, aux États-Unis. Comment interpréter cette nomination? Est-ce que c'est le signe que le régime est disposé à engager une forme de transition, ou est-ce qu'il faut y voir tout autre chose?
Le régime, sur le papier, a signé un accord politique le 17 octobre qui dit qu'il y aura une transition de 2 ans. Donc, il préconise des élections en avril 2018, ce qui ne satisfait pas la majeure partie de l'opposition parce qu'elle trouve que c'est un délai trop long et qui permettrait à Kabila de rester encore 2 ans au pouvoir, alors qu'on peut très bien organiser les élections dans l'année. La communauté internationale le dit elle aussi. La conférence épiscopale du Congo, qui est très puissante, l'église catholique est très puissante au Congo. C'est un peu un ersatz d'État. C'est un peu la seule institution qui marche vraiment au Congo. Et les évêques disent, on peut le faire en 2017. Ça pourrait empêcher le bain de sang le 19 décembre. Par contre, si Kabila s'entête à faire valoir un accord politique qu'il n'a même pas signé, que son chef de cabinet a signé, et qui n'inspire aucune confiance à ses interlocuteurs, on va droit dans le mur.
Alors, je me fais l'avocat du régime parce qu'il y a un argument du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, donc le parti du régime, et de dire qu'il est impossible d'organiser dans ce contexte-là des élections, compte tenu évidemment des violences. Et par ailleurs, il s'appuie aussi sur l'article numéro 70 de la Constitution qui prévoit que le président en exercice garde ses fonctions jusqu'à l'arrivée d'un nouveau président, ce qui explique que Kabila doive rester, en tout cas c'est son argument, jusqu'à... Qui conserve ses fonctions finalement après le 20 décembre, oui. Date à laquelle il devrait normalement officiellement les quitter. Est-ce que cet argument-là, du point de vue juridique, est tenable ?
Il n'est pas tenable. Il n'est pas tenable. La Constitution dit clairement que le mandat s'exerce pour une durée de 5 ans, qui est terminée, et que la limitation des mandats, c'est 2 mandats successifs. C'est pas constitutionnel du tout. Après, on peut jouer avec la Constitution comme on veut et la tailler sur mesure pour les besoins d'un président. Le problème, c'est que c'est la stratégie très perverse du pompier pyromane. Kalib Kabila va mettre le feu et après, il va dire, mais comme il y a le feu, on peut plus. Et c'est ça que refuse l'opposition.
Alors, parmi les opposants, justement, l'infatigable Étienne Tshisekedi, qui a la particularité quand même d'avoir en fait toujours participé à peu près à la conduite des affaires. Hein. Il était d'ailleurs un premier ministre de Mobutu. On se souvient qu'en 2011, il s'était autoproclamé président à la suite de l'élection contestée, à l'issue de laquelle Kabila donc s'est succédé à lui-même. Depuis, il a dû quitter le pays, sauf qu'il a récemment fait un retour absolument triomphal à Kinshasa. Des centaines de milliers de personnes sont venues pour l'accueillir. Je crois qu'il a mis plusieurs heures pour arriver chez lui. Comment est-ce qu'il pourrait peser dans le jeu politique et quel avenir finalement vous lui voyez à cet homme? Est-ce qu'il va enfin peut-être accéder au pouvoir?
Non. Tshisekedi, c'est une carte maîtresse de l'opposition qui est rassemblée en 2 grands fronts. Ça s'appelle le rassemblement LG7. Vous avez d'un côté l'opposition historique d'Étienne Tshisekedi, qui sait que son candidat est trop vieux puisqu'il a 84 ans et qu'il a dû partir pour se faire soigner à l'étranger et pas pour d'autres raisons ces derniers temps. Et cette Tshisekedi a accepté de faire alliance avec un opposant récent qui s'appelle Moïse Katumbi et qui lui représente une véritable alternative pour la première fois au Congo parce qu'il n'est pas issu du sérail politique, parce qu'il est immensément riche et qu'il s'est construit tout seul. Il dispose de sa propre fortune, il ne dépend pas des deniers publics ou du détournement des deniers publics pour vivre. Il a financé la campagne de Kabila en 2006. Il a cru que Kabila respecterait la constitution. À partir du moment où il a vu que Kabila s'apprêtait à manœuvrer pour ne pas respecter la Constitution, il a démissionné de ses postes, d'abord au sein de la majorité présidentielle, puis le poste de gouverneur de la province du Katanga. Et ça fait un an qu'il est dans l'opposition. Il est persécuté sur le plan juridique par le pouvoir. Il a été obligé de partir en exil au mois de mai pour se faire soigner parce qu'il a reçu une drôle d'injection, une piqûre bizarre aux portes du tribunal de Lubumbashi où il est arrivé pour un procès... un énième procès qu'on lui a intenté. Il a été victime d'une tentative d'empoisonnement. Et depuis, il est en exil. Il cherche à rentrer, mais l'aviation civile congolaise lui refuse à son jet le droit d'atterrir. Donc il veut rentrer pour affronter son adversaire. Mais il fait peur parce qu'il représente vraiment une alternative. Et c'est Moïse Katumbi, on peut en penser tout ce qu'on veut. C'est un monsieur qui représente une réelle alternative au Congo.
Peut-être une dernière question, Sabine Sessou. Le 1er septembre dernier, l'Union africaine a nommé un médiateur, Edem Kodjo, qui est un ancien Premier ministre du Togo. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et de façon peut-être plus générale, quelle pression la communauté internationale peut-elle réellement exercer sur Kabila? Quel effet est-ce qu'on peut en attendre?
Alors c'est là où c'est... ça fait mal et ça paraît vraiment ridicule, c'est que... le Congo, c'est quand même le pays du monde où il y a la plus grande force des Nations Unies déployée sur le plan militaire. Il y a 19 400 personnels en uniforme, 20 000, plus de 20 000 gens, y compris les personnels civils. Et malheureusement, on peut dire que ça ne sert pratiquement à rien parce que les forces, le rapport de force politique interne au Congo est vraiment entre les mains des Congolais. Et aucune pression internationale n'a eu les résultats escomptés. On a vaguement les États-Unis... ont été les seuls à prendre des sanctions après les émeutes, en empêchant un général de la police de se rendre aux États-Unis et d'avoir de l'argent aux États-Unis, des avoirs aux États-Unis. Ça paraît dérisoire par rapport aux enjeux. D'autant plus que beaucoup de monde, beaucoup de gens, y compris les voisins directs du Congo en Afrique, ont vraiment intérêt à ce que le pays reste ingouvernable et soit faible, reste un État faible, parce que c'est trop bien de se payer sur la bête et de piller tout le cuivre, tout le coltan et tout l'or du Sud Kivu.
Et les États-Unis, justement, comment est-ce que l'élection de Donald Trump pourrait jouer finalement sur... Et là, on peut peut-être élargir sur l'ensemble du continent africain. Est-ce que tous ces chefs d'État qui cherchent à se maintenir à la faveur de réformes constitutionnelles ou même en réprimant leur peuple, est-ce que ça risque pas finalement de les encourager? On a beaucoup dit que l'arrivée de Donald Trump risquait de s'accompagner d'une forme de repli, voire d'isolationnisme. Est-ce que ça va pas encourager tous ces chefs d'État?
Non, sur le plan diplomatique, je pense que les États-Unis vont pas vraiment changer de politique à l'égard de l'Afrique. D'ailleurs, Tony Pirillo a continué de faire pression sur la RDC pour que Kabila accepte un autre compromis. Moïse Katumbi est en ce moment à Washington en train de faire pression de manière assez efficace pour obtenir un autre compromis avant la date fatidique du 19 décembre. Et de tous les experts à qui j'ai pu parler de ça, personne ne s'attend... en tout cas sur le continent, à un changement dramatique du dispositif sécuritaire et diplomatique américain, dans la mesure où l'Afrique reste un continent stratégique en matière d'approvisionnement en matières premières, à long terme, et surtout en matière stratégique pour la lutte contre le terrorisme, avec le dispositif AFRICOM, qui est déployé des bases militaires et un soutien logistique à des troupes panafricaines qui combattent le terrorisme islamiste en Somalie, par exemple.
Merci beaucoup, Sabine Sessou, d'être passée dans nos studios. Je rappelle donc journaliste, ancienne correspondante de Libération en Afrique du Sud. On vous recevait pour votre article qui est paru dans Le Monde Diplomatique, qu'on peut retrouver.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sabine Sessou.
conflit sur conflit. Ye bambo que tango la cara moko jie moko te. Si el hongo na peuple. Y moi, a Jalina ma colomane. A la taca se la se afae.
Ma conci a Congo. Ma cambi a Congo, ma conci a Congo.
Et c'est avec Papa Wemba, qui est décédé en mai dernier, Congo Moko, ce titre qu'on tourne notre page congolaise. On se tourne du côté de la Corée du Sud alors que la présidente Park Geun-hye, éclaboussée par un scandale de corruption, pourrait être destituée. Que révèle la crise en Corée du Sud ? C'est notre sujet.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et oui, en effet, il y a quelques jours, Séoul a connu la plus grande manifestation populaire de son histoire. Plus d'un million de personnes, seulement 260 000 selon la police. En tout cas, beaucoup étaient réunis pour exiger le départ de la présidente.
Aujourd'hui, la Confédération coréenne des syndicats a rassemblé le plus grand nombre de membres de son histoire pour réclamer la démission et l'emprisonnement de la présidente, dit ce représentant. Je suis ici pour appeler à la démission de Park Geun-hye, qui a rendu les conditions de vie et de travail plus difficiles, qui a décrédibilisé la gouvernance de l'État et a monopolisé les affaires de l'État avec une malsaine culture du secret. Cela me soulage de le crier avec d'autres personnes.
Et oui, depuis plusieurs semaines, les manifestations s'enchaînent. Les Coréens semblent déterminés à exiger le départ de leur présidente. Quel avenir pour Park Geun-hye, éclaboussé par cette affaire de corruption qui a provoqué la colère de l'opinion? Et qu'est-ce que cette crise révèle de l'état de la démocratie sud-coréenne? Juliette Morillo et Valérie Gelezo sont de nos invités ce matin. Également avec nous, Harold Thibault du Monde, notre partenaire le vendredi. On va commencer avec vous comme on le fait chaque vendredi, Harold Thibault. On pensait que le vote sur la destitution de la présidente sud-coréenne aurait lieu aujourd'hui. C'était ce qui était prévu. Finalement, il a été repoussé d'une semaine. Les députés de son parti, le Saenuri, le parti de la Nouvelle Frontière, peut-être veut nous laisser un tout petit peu de temps, mais on sent clairement que ces jours à la tête de l'État sont comptés désormais. Harold Thibault.
Quoi qu'il arrive, c'est la fin. La seule question, c'est démission ou destitution, en fait. Et donc, mardi, effectivement, elle s'est exprimée. C'est la troisième fois depuis qu'a éclaté le scandale en octobre qu'elle s'exprime devant le peuple. Elle a dit qu'elle était prête à démissionner selon les ordres du Parlement. Mais elle n'a pas démissionné. Les partis d'opposition et même une partie de son parti, Saenuri, étaient déjà prêts à déposer une motion d'impeachment, de destitution. Et évidemment, en anticipant, elle les a un peu bloqués. Et donc là, on entend aujourd'hui que l'opposition serait prête à déposer une motion de destitution le 9 décembre. Mmh. Le 9 décembre, oui, dans une semaine.
Juliette Morillo, je crois que vous, l'hypothèse de l'avoir quittée d'elle-même le pouvoir, vous n'y croyez pas. Je ne me trompe pas, hein, Juliette Morillo.
C'est-à-dire que je trouve que c'est très malin. C'est-à-dire, ce qu'elle a fait, contrairement à ce qu'on a pu croire, elle n'a pas dit qu'elle allait démissionner. Elle a en fait, de façon, elle est très très bien conseillée. Depuis tout temps, elle a été conseillée.
Mais
aussi là, elle est très bien conseillée par ses juges. C'est-à-dire qu'elle a renvoyé finalement la balle au Parlement en disant, au fond, c'était l'essence de son discours, de cette troisième expression à la télévision, elle disait « je vais me plier à la Constitution, à ce que dira le Parlement ». Alors elle a renvoyé la balle vers l'opposition, qui finalement n'a pas envie d'organiser rapidement des élections, parce qu'ils ne sont pas assez unis pour cela. Mmh. Et puis l'annonce du Saenuri, finalement, qui est, ne l'oublions pas, et son parti, est une façon de lui éviter de ne perdre la face. C'est-à-dire que c'est l'annonce qu'ils ont faite est très précise. On lui donne, grosso modo, 7 jours jusqu'au fameux vote pour annoncer qu'elle pourrait démissionner en avril. Ce qui lui permettrait, après, il y aura un gouvernement intérimaire, et ce qui permettrait donc au Saenuri, de ceux qui sont propre parti, de se protéger, puisqu'il n'aurait pas à voter finalement un impeachment. Donc tout le monde sauve la face. Et je pense que normalement, d'ici une semaine, elle devrait annoncer qu'elle part en avril.
Valérie Gelezo, vous croyez aussi à cette hypothèse? Elle va annoncer probablement qu'elle part en avril?
Oui, alors je crois qu'effectivement, je rejoins ce que dit Juliette Morillo. Je voudrais aussi peut-être faire la connexion avec un événement politique qui est arrivé il y a plus de 10 ans. C'est la deuxième fois qu'on est face quand même en Corée du Sud à une procédure comme ça de destitution d'impeachment. impeachment, puisque au moment où, lors de la présidence de Nguyen entre 2003 et 2008, il avait été mis face à une procédure d'impeachment pour des raisons d'incompétence et de corruption et aussi d'ingérence en fait dans les procédures de vote législatives. Et la Cour constitutionnelle avait rejeté après 2 mois, ce qui avait permis à Nguyen de revenir encore plus fort en réalité. Donc je pense que peut-être aussi Park Geun-hye et ses conseillers, comme le dit ses avocats, ont ça en tête également.
Alors essayons peut-être de comprendre ce qui est à l'origine de tout ça, Juliette Morillo. Ce scandale de corruption qui touche notamment une femme dont le rôle n'est pas très clair, mais qui est vue comme sa confidente, je mets des guillemets, qui n'a pas de rôle de conseiller officiel, Choi Soon-sil, qu'on surnomme Raspoutine dans la presse locale. Alors, qui est cette femme? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Et en quoi cette affaire décrédibilise-t-elle la présidente?
Alors, c'est très simple. Alors, il faut d'abord reprendre les choses depuis le début.
Allons-y.
La présidente Park Geun-hye est la fille de Park Chung-hee, qui est une sorte de dictateur, d'un autocrate assez charismatique.
Une sorte, un dictateur.
Oui, mais charismatique. C'est-à-dire qu'il était,
celui
qui a lancé apprécié.
La...
Voilà.
Ils le sont souvent.
Qui a lancé la croissance coréenne, quand même.
Voilà, c'est quand même. Il est aimé parce que c'était à la force.
Ambigu.
C'était ambigu. Voilà, c'était le peuple a souffert, mais c'est quand même l'auteur du miracle économique coréen. Bon, il faut savoir que Park Geun-hye était étudiante, c'était une jeune fille quand ses deux parents ont été assassinés, sa mère en 1974 et quelques années plus tard, son père. Son père lui-même était conseillé par un mystérieux gourou, une sorte de gourou de secte, on ne sait pas très bien, chamanisme, protestant, peu importe, qui s'appelait Choi Tae-min et qui est le père de l'actuel Choi Soon-sil. Ce Choi Tae-min, au moment de l'assassinat...
La fameuse femme au cœur du scandale.
Voilà. Donc le papa, au moment de l'assassinat de la mère de l'actuelle présidente, lui a dit qu'il pouvait communiquer avec elle. Et finalement, à la fin, après que ses deux parents aient été assassinés, la présidente a trouvé dans cette famille donc, de gourous une sorte de seconde famille. Donc les liens qu'elle entretient avec la fille Choi Soon-sil, donc la fameuse Raspoutine, sont très anciens et très 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 intimes. Alors, on a parlé d'une oracle chamanine. Je pense que elle a un petit peu dire ça, c'est porter le discrédit sur tous les chamans de Corée. À mon avis, c'est un gourou, c'est une manipulatrice. Et elle a pris une influence énorme. Elle conseillait, par exemple, la présidente sur le choix de ses vêtements, mais elle vérifiait également...
C'est pas seulement le choix des vêtements, c'est aussi... Discours. Elle corrigeait les discours, c'est ça qui a posé problème à l'opinion.
Elle corrigeait les discours et... Pire encore, elle l'a conseillé notamment sur les affaires avec la Corée du Nord. Mmh. Par exemple, la fermeture de la zone intercoréenne de Kaesong et d'autres choses. Donc ça a pris une ampleur énorme et on s'est aperçu en outre qu'elle... Alors c'est un scandale véritablement tentaculaire. Elle était à la tête de plusieurs fondations censées promouvoir le sport en Corée du Sud. Donc elle a... obtenu des grands conglomérats sud-coréens, Hyundai, Samsung, des sommes faramineuses pour ces fameuses fondations et en fait qu'elle aurait détourné à son profit.
On parle de 60 millions d'euros.
Oui,
60 millions d'euros. Hein.
Ce sont des sommes absolument monstrueuses qu'elle aurait détournées à son profit.
Oui. Valérie Jelezo et puis ensuite Harold Thibault. Valérie Jelezo, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, elle avait été élue, donc en 2012, parce qu'elle était la fille de son père et que d'une certaine manière, en tout cas dans une frange de la société, on ressentait une certaine nostalgie ou en tout cas on pensait que le pays avait besoin de retrouver une certaine autorité?
Alors, il est certain que le fait qu'elle soit la fille de Park Chung-hee a évidemment joué, en raison de effectivement l'ambiguïté qui est liée à la figure de ce dictateur coréen qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 61, qui donc a été assassiné en 79 par le chef des services secrets, pour lier donc effectivement à des histoires avec la Corée du Nord. Mais néanmoins, effectivement, Park Chung-hee a lancé la Corée sur la voie du développement. Donc, quand Park Geun-hye s'est présentée, elle a surtout été élue parce que les partis d'opposition étaient très faibles aussi. Hein. Donc évidemment, ça a joué. C'est la principale, à mon avis, raison de son élection. Parmi les facteurs aussi qui ont beaucoup joué, ça a été sa politique nord-coréenne, enfin en tout cas ce qu'elle disait de la politique vis-à-vis de la Corée du Nord, qui a été aussi quelque chose qui a joué en faveur de son élection.
Harold Thibault.
Non, mais effectivement, l'aura de son père fait qu'aujourd'hui, les Sud-Coréens sont complètement tombés de l'armoire. J'étais aux manifestations début novembre, et d'apprendre que donc cette famille puissante était en fait complètement sous influence et donc totalement faible, ça a déstabilisé le peuple sud-coréen qui s'aperçoit qu'on les manipule complètement. En fait.
Et les deux côtés, en fait, c'est ça qui est surprenant. C'est-à-dire que ceux qui ont voté pour elle sont déçus parce qu'ils s'aperçoivent qu'elle est faible. Et évidemment, l'opposition était contre elle. Donc c'est ce qui explique aussi l'ampleur des manifestations, je
Alors,
pense.
Alors, on va voir peut-être les mauvais côtés, ce que révèle cette affaire s'agissant des mauvais côtés. Mais moi, je vais regarder le verre à moitié plein. C'est plutôt une bonne nouvelle, tout ça. Enfin, ça veut dire aussi que la démocratie sud-coréenne va bien. On peut manifester, justement. Harold Thibault l'a vu. La presse est relativement libre. On peut dire des choses. Les juges peuvent enquêter. C'est plutôt bon signe, tout ça, Juliette Morio.
C'est je vais reprendre juste une chose. Vous dites que la presse est relativement libre. Alors ça, c'est probablement moins en Europe, mais il y a eu pendant les années Park Geun-hye, il y a eu une restriction extrêmement forte des libertés de la presse, des artistes, pas mal de syndicalistes qui ont dont le représentant des syndicats de Corée qui ont été emprisonnés. Donc je pense que il y a eu des listes d'artistes qui ont été données et qui ne peuvent plus dire ce qu'ils veulent. Et on dit que
c'est pas une dictature.
Non, c'est pas une dictature.
Il y a eu un recul quand même.
Il y a eu un recul.
On a parlé de régression démocratique. Hein,
voilà, il y a une régression démocratique. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est que tout ceci, finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la pointe de l'iceberg. Derrière tout ça, la base de l'iceberg, c'est finalement le carcan du confucianisme. Le confucianisme qui a permis le fameux essor économique coréen, mais qui est un carcan aussi pour la société. Et quand on regarde tout simplement depuis le lendemain de la guerre, on prend tous les présidents, les uns à la suite des autres. Tous, à un moment ou un autre, ont été empêtrés dans des scandales monstrueux de corruption. Et Park Geun-hye n'est qu'une parmi tous ces mandats finalement assez calamiteux.
Je vous cite Juliette Morio, parce que vous vous dites effectivement que c'est le symptôme d'une crise profonde. Malade d'un miracle économique applaudi, magnifique et spectaculaire obtenu grâce à l'opiniâtreté des Coréens, à leur courage sans faille. Vous poursuivez. Malade d'une spectaculaire croissance trop rapide, d'une urbanisation chaotique, d'une évolution sociétale accélérée, d'une ouverture sur le monde trop soudaine après des siècles d'isolationnisme. Malade de son confucianisme, sauveur et carcan tout à la fois. Et vous poursuivez encore, malade de ces grandes familles dirigeantes, malade d'une corruption endémique dont atteste l'incroyable vocabulaire de la langue coréenne pour désigner les multiples formes de pots de vin.
Oui, en effet, je pense que la Corée, c'est un ras-le-bol, la Corée est véritablement malade et en fait, c'est tout un mécontentement qui va encore plus loin, qui va dans les racines de l'histoire coréenne, cette impression d'avoir toujours été dirigée par finalement des rois, des présidents fantoches.
Valérie Jalezot, la Corée du Sud est malade?
Alors, je nuancerais. Enfin, je pense qu'effectivement, il y a des exemples. La maladie de la Corée du Sud, effectivement, c'est la grande graine de la corruption politique, ça c'est clair. Hein, mais ça n'est pas que la Corée du Sud. Par exemple, les sommes extorquées à Samsung. Alors, c'est pas simplement du détournement de fonds. C'est aussi une alliance qui est caractéristique du fonctionnement vraiment de l'économie et de la politique coréenne. Hein, ce qui a fait marcher ce qu'on appelle le developmental state, hein, l'État développeur, c'est-à-dire cet accord entre l'État et les grandes entreprises. Et donc, Samsung, au moment où il a accordé des fonds à Choi Soon-sil, était en train de réaliser des fusions un peu délicates qui auraient pu mal se passer. Et donc, dans cette situation-là, c'est vraiment un accord avec le politique. Il y a aussi la corruption avec l'académie, donc il y a déjà beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est aussi un sursaut. Quand même, moi, ces manifestations qui prennent les espaces publics, et on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, c'est quand même quelque chose de nouveau. On est dans un autre paradigme quand même en Corée du Sud. Les manifestations classiques des années 80 n'avaient rien à voir avec ce
Pourquoi
qu'on voit là aujourd'hui. Parce que d'abord, elles n'étaient pas au centre, dans ces places centrales. La Corée du Sud, enfin en tout cas à Séoul, le gouvernement a créé, enfin la ville de Séoul a créé des places publiques, des espaces publics, donc d'expression aussi démocratique. Et c'est la première fois quand même, même lors des manifestations contre Im Young-bak, il n'y avait pas autant de monde partout. Hein, c'était souvent, par exemple, sur l'esplanade de Sejong, il y avait les vigiles à la bougie étaient plus excentrés et en plus les manifestations étaient plus violentes. Là, on est dans une sorte de marée assez calme finalement, mais qui est tout à fait dans un autre paradigme que ce qu'on voyait dans les années 80.
Harold Thibault, j'en profite, je me tourne vers vous parce que vous étiez justement sur place au moment de ces manifestations. Finalement, qu'est-ce qu'exprimaient ces manifestants ? Au-delà, bien sûr, de la seule question de la démission de la présidente, hein, on a bien compris. Mais quel était le message qu'il y avait peut-être derrière tout cela ?
Alors, ces manifestations, elles sont calmes, mais par contre, elles sont massives. Hein. Donc, celle à laquelle j'ai assisté le 12 novembre, c'est la première qui a dépassé le million de personnes à Séoul. Là, les derniers samedis, on est sur 1,3 million environ, selon les organisateurs. La police dit beaucoup moins. Donc, d'abord, il y a une mobilisation qui est massive. Ça dit que c'est une démocratie qui fonctionne quand même, parce que le peuple sort. On parle d'un recul de la liberté d'expression sous la présidente Park. C'est vrai, mais ça reste une démocratie ouverte, libérale, qui fonctionne. Je pense que la mobilisation est aussi grande parce qu'on a un pays qui s'interroge finalement. Il s'interroge sur son économie. On a ces Chebol, les grands conglomérats qui dominent complètement l'économie. On ne sait pas quel est leur avenir. Évidemment, Samsung, avec l'histoire du téléphone qui explose, l'illustre un peu. On est dans un contexte international qui est tout à fait inquiétant pour eux parce que il y a la montée en puissance de la Chine, qui est un ami, un partenaire sur le plan économique, mais qui protège la Corée du Nord. On a l'élection de Trump, qui est un gros point d'interrogation pour eux. Donc il y a une vraie interrogation. Ce qui m'a touché, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui sortent dans la rue. Donc à la fois ils ont leur mot à dire, ils veulent s'exprimer. Mais ils se demandent quand même où va le pays.
Et c'est d'ailleurs peut-être ça, finalement, l'essentiel. Ils ont leur mot à dire, ils veulent s'exprimer. Je me tourne vers vous, Juliette Morillot, parce que je crois que c'est vraiment le sens de votre analyse. Pour vous, ce soulèvement populaire, c'est une manière de signifier que le peuple coréen en a assez d'être dépossédé en tant que nation et en tant que peuple, et que les Coréens veulent désormais décider, le peuple coréen veut décider de son propre destin. C'est un peu le sens d'une analyse que j'ai lue.
Oui, en effet, ne serait-ce que la partition du pays en nord et sud montre que finalement c'est la dernière balave de la guerre froide, que les Coréens ne décident pas vraiment pour eux-mêmes. Il faut savoir, je reprends cette idée des jeunes qui manifestent, il y a un chômage énorme de la jeunesse coréenne, ils sont surdiplômés, ils ne trouvent pas de boulot, et il y a aussi un poids énorme de la société sur eux. J'ai des amis coréens qui ont des doctorats en poche et qui préfèrent aller émigrer à l'étranger, en Norvège, au Danemark, pour reprendre des petits métiers, travailler dans une boulangerie, tellement ils se sentent mal à l'aise dans ce qu'ils appellent aujourd'hui Hellchoson. Et il y a aussi un autre point qui est important.
Qu'est-ce que ça veut dire, Hellchoson ?
Hellchoson, c'est l'enfer de la Corée. Tellement ils se sentent mal à l'aise dans cette Corée. Donc, sont eux qui manifestent. Et l'autre point qui est important, c'est par rapport à ces fameux conglomérats, ces fameux Chebol. Il y a une décrédibilisation de ces fameux conglomérats sud-coréens qui sont encore gérés à l'ancienne. Je prends pour cela juste un petit exemple. Souvenez-vous, il y a 2 ans, de la fille du patron de Korean Air, donc la compagnie d'aviation, qui faisait, comme une princesse, retourner l'avion à port, tout simple, et l'empêcher de décoller parce qu'on lui avait servi des cacahuètes dans une assiette en porcelaine.
Ça s'appelle l'affaire des cacahuètes.
Quoi. Voilà, c'est un vrai scandale, mais qui est symbolique d'une Corée qui ne veut plus être gouvernée par des princesses. Et je rappelle que Park Geun-hye a été appelée la princesse des élections, la princesse de glace. Le mot princesse revient régulièrement dans la bouche des manifestants.
On ne veut plus de prince et de princesse. Valérie Jalousot, encore un mot avant de...
Oui, poursuivre là-dessus, je pense qu'il y a aussi vraiment des frustrations sociale et économique extrêmement forte en Corée, qui là aussi connecte quand même à des mouvements plus globaux, disons qu'on peut connecter à ce qui se passe dans d'autres pays développés, hein, les conséquences de la libéralisation, la financiarisation de l'économie, qui ont entraîné effectivement l'accroissement des inégalités, l'existence de tous ces jeunes effectivement qui sont désœuvrés, qui trouvent pas de boulot. Tout ça combiné avec quelque chose là qui est peut-être plus spécifique en Corée qu'a évoqué Juliette, hein, c'est la perte des solidarités traditionnelles, parce que finalement, finalement, tout s'est fait très très vite. Hein. C'est ce qu'on parle. Enfin, on analyse les transformations sociales par cette expression de compressed modernity, la modernité compressée. Donc des choses qui pouvaient maintenir des gens à flot il y a 15, 20 ou 30 ans, et ben n'existent plus aujourd'hui. Donc tout ça combiné, effectivement, explique la forme que prend ce soulèvement en fait.
Alors, un peu de politique intérieure et ensuite un peu de politique étrangère. D'abord, sur le plan intérieur, Pak Geun-hye était parvenu très bien à rassembler son parti, le Grand Parti National, Parti Conservateur. Rappelons qu'elle avait quand même facilement remporté les primaires. On parle beaucoup de primaires, hein, 84%. Donc, elle avait littéralement écrasé ses concurrents. Aujourd'hui, le parti va un petit peu moins bien. Il va falloir se reconstruire. Du côté de l'opposition, le principal parti, le Minju, est plutôt sur une bonne dynamique. En tout cas, si on regarde les élections d'avril dernier, les élections législatives, puisqu'il avait remporté 167 sièges au Parlement sur un total de 300. Ça faisait 16 ans qu'il n'avait pas remporté les élections législatives. Est-ce que l'opposition peut profiter de cette crise et finalement déclencher l'alternance pour gagner la future élection présidentielle? Est-ce que c'est le scénario que vous voyez l'une et l'autre, Juliette Morillo?
Je pense que tout le monde a essayé de gagner du temps. Je pense qu'une des raisons pour laquelle l'opposition ne s'est pas prononcée immédiatement avec fermeté pour une destitution de la présidente et a préféré attendre donc une procédure d'impeachment, c'était justement parce qu'il n'était pas prêt immédiatement à organiser des élections en 60 jours. Et elle joue également là-dessus. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un élément extérieur auquel il faut penser, c'est la venue de Ban Ki-moon. Ban Ki-moon qui devrait rentrer en Corée en janvier.
Oui, puisqu'il ne sera plus secrétaire général des Nations Unies, évidemment.
Voilà. Et qui pourrait éventuellement être, mais on n'en sait rien, une sorte de sauveur, une tête nouvelle, un visage nouveau en Corée. Entre ses nourris, alors il a été ministre des Affaires étrangères sous Nomuhyon, donc normalement il fait partie de l'opposition, mais ça pourrait être une forme de solution à venir.
Ah, j'avais pas du tout envisagé ce scénario. Harold Thibault.
Ban Ki-moon, finit son mandat à la tête des Nations Unies, il a dit que ensuite il aurait plus de temps pour la politique intérieure sud-coréenne.
Ah oui, donc il s'est déjà placé.
Ça crée un énorme doute. C'est plus ou moins le seul atout pour ses nourris s'ils veulent remporter les élections qui viennent, alors qui étaient prévues pour décembre 2017, qui devraient avoir lieu bien plus tôt. Est-ce que lui décidera d'y aller? Il est assez respecté en Corée du Sud parce qu'il a travaillé à l'international, etc.
Mais sa position politique n'est pas claire. C'est-à-dire, officiellement, c'est Senouri, mais pas forcément toujours.
Senouri, donc le parti de l'actuel président.
Voilà.
Qui s'effrite.
D'autant que, de toute façon, comme vous le savez, et comme c'est le cas depuis très longtemps sur la politique sud-coréenne, les partis sont créés pour les élections. Donc on ne sait absolument pas ce qui va ressortir de l'événement, et probablement Senouri va disparaître et va être remplacé par un nouveau parti justement au moment des nouvelles élections, et de même pour le Minju.
On va peut-être complexifier un tout petit peu le tableau et puis ajouter un élément, et cet élément c'est l'arrivée bien sûr de Donald Trump, parce qu'on sait que Séoul, bien sûr, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, compte bien sûr sur Washington pour assurer sa propre sécurité. D'ailleurs, la coopération militaire est extrêmement forte, régulière. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça change finalement pour Séoul, cette arrivée de Donald Trump? Est-ce que il va falloir que Séoul revoie sa sécurité? Qu'est-ce que tout ça modifie dans les équilibres régionaux, dans son rapport à la Chine, dans son rapport à la Corée du Nord? Comment vous voyez les choses, Juliette Morillo?
Écoutez, là, ont été votées des sanctions contre la Corée du Nord, et je pense que c'était un dernier acte important de Barack Obama avant de partir, qui voulait continuer donc ce pivot vers l'Asie. Trump, au lendemain de son élection, aurait contacté la Corée du Sud en l'assurant malgré tout de son soutien. Je suis pas persuadé que les choses vont changer si facilement, parce qu'il ne faut pas oublier que la présence américaine dans cette partie du monde est essentiellement la raison de tout cela, c'est la montée en puissance économique de la Chine. La Corée du Nord, la péninsule coréenne, est finalement une sorte de prétexte. C'est un vilain facilement trouvé qu'on maintient un petit peu sous oxygène juste ce qu'il faut et qui justifie la présence américaine. Je suis pas sûre que tout va s'effondrer aussi vite avec Donald Trump, même s'il a dit qu'il voulait communiquer avec la Corée du Nord.
Peut-être parce que finalement, tout le monde a intérêt à maintenir le statu quo, en réalité.
Oui, exactement.
Harold Thibault ?
Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, les Sud-Coréens n'en savent rien. Comme nous d'ailleurs, finalement, on ne sait pas ce que va donner Donald Trump. J'étais au ministère des Affaires étrangères sud-coréen le lendemain de l'élection, et dans l'ascenseur, je croise ce qui probablement est un diplomate qui était en train de lire le bouquin Great Again de Donald Trump. Finalement, comme tous les pays, il n'avait pas misé sur lui, et ils se disent qu'est-ce que dit ce type en fait. Il y a une énorme incertitude depuis.
Valérie Gélézot.
Oui, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que c'est très difficile de prévoir ce que va donner la politique américaine. J'en veux pour preuve le fait que vraisemblablement, au moment où Obama a été élu la première fois, la Corée du Nord avait beaucoup d'attentes en se disant peut-être il va y avoir un vrai changement. Et en fait, pas du tout, puisque Obama, pour lui, ça n'a pas du tout été un facteur, en tout cas un objet de changement dans sa politique internationale. Donc on ne peut absolument pas prévoir ce que sera, si la politique américaine va changer. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que depuis 50 ou 60 ans, il y a quand même une force d'inertie dans l'attitude vis-à-vis de la Corée du Nord, qui est plutôt, y compris sur les 20 dernières années, en général, ce qui prévaut, c'est la politique de containment, d'opposition, etc. Donc sans négociation pour un traité de paix. Donc je suis pas certaine que ça change. On est vraiment dans des dynamiques assez profondes.
Tiens, comment est-ce qu'on perçoit du côté de la Corée du Nord les problèmes, les difficultés que rencontre le frère ennemi Séoul ? Est-ce qu'on se réjouit ? Est-ce qu'on s'inquiète ? Là, ça doit être facile à décrypter. Il suffit de lire la presse, parce que là, pour le coup, la presse, c'est la voix de son maître. Donc,
Oui, non, mais pour le coup, là, les Nord-Coréens, bien sûr, tout ça, ça fait l'affaire des Coréens. Ça fait des années que la Corée du Nord dénonce le fait que la Corée du Sud est une marionnette aux mains des États-Unis. D'ailleurs, n'oublions pas qu'en
cas... Donc on boit du petit lait à Pyongyang.
On boit du petit lait. N'oublions pas qu'en cas de conflit, quand même, c'est quand même les États-Unis qui ont la main sur les troupes conjointes américano-sud-coréennes. Donc c'est... Voilà. Et alors, en plus, avoir une présidente qui est dans le pétrin et qui serait manipulée par une pseudo-chamane comme finalement la reine Min au 19e siècle... tout ça, ça apporte de l'eau au moulin de la propagande, bien sûr.
Vous disiez tout à l'heure que ça révélait évidemment la maladie de la société sud-coréenne, cette crise-là. Est-ce que finalement, la Corée du Sud n'est pas aussi malade de cette division ? Et est-ce que ce dont aurait besoin la Corée du Sud, c'est la réunification ?
Alors, est-ce qu'une réunification est possible ? Ça, c'est une autre question. Mais bien évidemment que la Corée du Sud est malade de cette division. Elle est malade de ne pas avoir son destin en main. Finalement, on ne s'intéresse à elle que parce que c'est une petite péninsule qui est divisée. Et ils ne sont pas maîtres de leur destin, très clairement. Donc, je pense que oui, il faudrait qu'à un moment ou un autre, la seule façon de faire avancer le problème, de facto, la Corée du Nord, est une puissance nucléaire. Il faut arrêter de faire l'autruche et de se mettre la tête dans le sable. C'est une puissance nucléaire. La Corée du Nord demande finalement un traité de paix. Elle demande un traité de non-agression. Je pense qu'il est temps de parler avec la Corée du Nord. Et que finalement, l'influence... Alors, était-ce l'influence de la fameuse oracle, puisque je ne suis pas persuadée, parce que le précédent président sud-coréen, Im Yong-bak, avait une politique aussi très dure contre la Corée du Nord. Il est probablement temps au moins de régler ce problème, puisque les deux pays sont techniquement en guerre, et de peut-être commencer à discuter avec Pyongyang, ce qui ne veut pas dire approuver Pyongyang, et peut-être réfléchir à ces fameuses sanctions qui viennent d'être décrétées, qui ne servent depuis des années, c'est presque un réflexe pavlovien. La Corée du Nord fait une provocation, et puis on fait des sanctions, et puis on est reparti pour un tour. Et si, pour une fois, on essayait de discuter, sans encore une fois avoir des lunettes roses pour le régime de Pyongyang. Et peut-être, finalement, en allégeant les sanctions, ça permettra peut-être une certaine ouverture, parce que les choses bougent en Corée du Nord. Donc voilà, il faut probablement une nouvelle politique. Et rappelons-le également, Ban Ki-moon est en faveur d'un dialogue, d'entamer un dialogue en Corée du Nord. Il avait même, il fut un temps, prévu d'aller à Pyongyang. Peut-être que là, on a une solution.
Valérie Gélézot, cette question de la réunification, évidemment, c'est toujours étonnant de parler de ça, parce que ça paraît totalement improbable, mais...
Oui, en même temps, on ne peut pas savoir comment, dans quelle mesure ce serait possible. Mais la question, il y a plusieurs questions qui émergent là. D'abord, la question du traité de paix, elle n'est pas si simple. C'est vrai parce que malgré tout, les Sud-Coréens n'ont rien signé. Enfin, ils n'ont pas refusé de signer l'armistice quand même. Donc, c'est une question qui concerne en fait la Corée du Nord avec les États-Unis. Mais ça, donc, c'est tout à fait important. Hein. Et effectivement, c'est la seule chose qui, à mon sens, pourrait changer vraiment les choses, c'est de transformer cet armistice qui maintient finalement un front de guerre en fait, hein, et qui a des conséquences sociales, anthropologiques très importantes. Après, sur les sanctions, effectivement, les sanctions, dans une certaine mesure, sont un facteur de blocage en Corée du Nord, hein, puisqu'elles interdisent, notamment, elles empêchent le développement d'une classe moyenne, donc d'opposition plus large, etc. Donc c'est un facteur négatif, évidemment.
Il y a un désir de réunification du côté de la Corée du Sud. C'est quelque chose que vous avez entendu à Old Tibou quand vous y êtes allé?
Il y a un désir qui subsiste dans les esprits, mais la jeune génération n'a pas envie de payer pour cette réunification, qui sera extrêmement coûteuse. Mmh. On réalise que ce ne sera pas si simple finalement que la chute du mur de Berlin, parce que l'écart économique est gigantesque, parce que il y a tous ces facteurs qui font que ça paraît extrêmement éloigné. Surtout le facteur le plus important peut-être, c'est que le gouvernement nord-coréen ne veut pas d'une réunification sur le modèle du Sud. Donc on ne voit pas trop comment elle aurait lieu aujourd'hui, puisque ce gouvernement est protégé par des armes nucléaires.
Oui, ça fait mal aux oreilles, ça. Hein. On y va. Hein. C'est un groupe sud-coréen, évidemment, et qui a samplé, qui a réutilisé des discours de la présidente pour faire ce beau morceau que je vous propose pour clore justement cette émission. Merci à tous. Harold Thibault, journaliste au Monde, notre partenaire le vendredi. Juliette Morillo, je rappellerai La Corée du Nord en 100 questions, qui est paru chez Talendier. Valérie Jelezeau, je rappellerai vous. Séoul, Ville Géante, Cité Radieuse, mais aussi Débordering Coréen.
Débordering Coréen.
Débordering Coréen, c'était chez qui?
Routledge.
Merci beaucoup
2013.
À tous les trois.
대통령이 더 이상 어떻게 해야 되느냐. 대통령 집을 사퇴합니다. 그거 할 수 있는 거잖아요. 우리나라 얼마든지 잘 나갈 수 있어요. 그거를 왜 발목을 잡고 발전을 못하게 하냐 이거죠. 그러니까 안타까워서 대통령 집을 사퇴합니다. 비판은 누구나 할 수 있는 일입니다. 오죽하면 그런 주장을 하겠느냐. 그렇기 때문에 대통령 집을
Ouais, je vois que ça vous plaît tous, on va vous donner les références pour que vous puissiez le mettre sur vos playlists respectives. Merci beaucoup. Tout de suite sur France Culture, on retrouve Brice Couturier et le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous parlez depuis le début de la semaine de l'Allemagne. Angela Merkel se présente donc un quatrième mandat parce qu'elle n'est pas remplaçable. Et pourtant, les Allemands ne sont pas tous ravis de ses performances à la tête du pays. Vous avez des exemples de cette position critique, Brice?
Oui Florian, si l'on veut entendre un son de voix polémique, on se reportera avec intérêt à l'article de Wolfgang Streeck qu'il signe dans le tout dernier numéro de la revue Le Débat. L'auteur, directeur émérite de l'Institut Max Planck de Cologne et auteur d'un essai remarqué en français qui s'appelait « Du temps acheté, la crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique » y trace un portrait peu flatteur de la chancelière en, je cite, « dirigeante post-moderne ». Alors ce qu'il entend par là, c'est une capacité à se maintenir au pouvoir au moyen de changements de cap imprévisibles, bref une politique au fil de l'eau qui tente d'épouser les mouvements d'opinion en mettant à profit les crises, y compris celles qu'on a provoquées soi-même. Et il étudie de ce point de vue deux cas d'école, la crise des migrants et celle de l'euro. La crise des migrants d'abord. Dans un premier temps, Merkel constate l'émotion soulevée en Allemagne par la photo du petit garçon noyé, le corps échoué sur une plage turque. Elle comprend le bénéfice que peut tirer son gouvernement d'une déclaration d'ouverture des frontières. Elles-mêmes et Schäuble viennent de se faire traiter de nazis par les gauches européennes pour leur gestion de la crise grecque, alors la ville Commons Kultur des Allemands permettra de donner une leçon à l'Europe entière. Elle confortera les Allemands dans la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Au passage, Merkel tend une main en direction des Verts, avec lesquels elle caresse alors l'idée d'une alliance politique renforcée depuis l'abandon du nucléaire. Abandon, là aussi, décidé sur un coup de tête. Quant au patronat allemand, il appuie fortement cette politique d'accueil parce qu'il flaire une bonne aubaine. Selon la rumeur, les réfugiés seraient essentiellement originaires de Syrie et parmi eux se trouveraient de nombreux ingénieurs et médecins. La chancelière, écrit Streeck, a camouflé en politique de l'asile et des réfugiés ce qui était en réalité une politique de l'immigration de travail. Celle-ci est sans doute une nécessité démographique pour l'Allemagne, même si la suite a démontré que très peu de migrants étaient aptes à travailler rapidement en Allemagne afin d'en soutenir les caisses de retraite. Mais la chancelière n'a tenu aucun compte du fait que la situation démographique et celle du marché du travail est très différente en Europe selon les États. L'intérêt de l'Allemagne, c'est celui de l'Europe. Elle a décidé pour tout le monde. Et à son habitude, la chancelière se sert d'un mouvement d'opinion pour court-circuiter toutes les instances politiques responsables. Il n'y eut ni décision collective de son gouvernement, comme c'est la règle en Allemagne, ni débat au Parlement. Cela fait un bon moment que Merkel ne gouverne plus comme le chef d'un régime parlementaire, mais comme un président disposant de pouvoirs d'urgence, écrit Streeck. Et lorsque l'opinion se retourne, à la suite des agressions de Cologne, que les capacités d'accueil de l'Allemagne sont manifestement débordées, eh bien, la chancelière opère un tournant à 180 degrés de sa politique. Après avoir tenté d'imposer à ses partenaires européens, qu'elle n'avait pas songé à consulter, de partager les conséquences de sa politique, elle ferme les frontières, adoptant elle-même la politique qu'elle venait de déclarer impossible. Mais ses partenaires avaient fait savoir à l'Allemagne qu'il ne pouvait s'engager sur le principe d'un pourcentage de migrants à accueillir chez eux tant que la chancelière refusait de s'engager de son côté sur un plafond de migrants. Face à leur refus, elle s'en va négocier en tête-à-tête avec Erdogan le contrôle des flux migratoires vers l'Europe. Ipso facto, les frontières européennes sont devenues les frontières allemandes. Elle, qui s'était montrée hostile à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, déclare les négociations réouvertes sans aucune consultation de ses partenaires européens. Le Merkel-Speak, écrit Wolfgang Streeck, est un double langage, un mélange difficile à démêler d'intérêts égoïstes et de sentimentalité, une autosatisfaction hégémonique.
Et alors la crise de l'euro dans tout ça, Brice, quels sont les torts de la chancelière, en tout cas selon Wolfgang Streeck?
Toujours selon lui, au lieu de laisser les pays trop lourdement endettés faire défaut, et contraindre ainsi les prêteurs téméraires à assumer leurs pertes, Angela Merkel organise effectivement leur renflouement, mais à ses conditions. Des politiques d'austérité qui, loin d'améliorer leur compétitivité, la plombent et entravent leur croissance. Plus leur croissance est faible, moins ils parviennent à rembourser. C'est le cercle vicieux qu'on connaît désormais. Derrière l'apparence de solidarité envers les endettés, laisse entendre Streeck, il y a l'intérêt bien compris de l'Allemagne. Si on avait laissé les marchés se débrouiller et accepter les lourdes pertes qu'ils méritaient, les primes de risque sur les dettes publiques des autres pays auraient été revues à la hausse. Or, l'Allemagne aussi est endettée. En faisant mine de chercher à résoudre les problèmes des autres, on songe ici à son intérêt bien compris. On l'a bien vu lorsqu'ont été entrepris les crash tests des banques en Europe. Les Allemands ont fait en sorte que la situation désastreuse de leur propre caisse d'épargne régionale ne soit pas évoquée. Enfin, Angela Merkel porte une responsabilité écrasante dans la décision de la majorité des électeurs britanniques de quitter l'Union européenne, car les Anglais ont voté contre deux choses, la politique migratoire et la politique budgétaire, toutes deux préconisées par l'Allemagne.
Merci beaucoup Brice Couturier donc pour lire ce portrait critique d'Angela Merkel, du temps acheté, la crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique par Wolfgang Streeck.
Et le débat qui vient de paraître.
Absolument, et la revue Le Débat. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette série consacrée à l'Allemagne qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Rendez-vous lundi pour une nouvelle série. Il sera un peu question de musique, alors j'invite vraiment les auditeurs à être bien à l'écoute lundi prochain. Merci Brice, bon week-end et à lundi.